et bienvenue sur la version mini de Qu'est-ce que tu ? Dans ces courts épisodes, vous retrouverez un des jeux de l'épisode enregistré. Si cet extrait vous a plu et que vous avez envie de vous immerger dans le quotidien de l'invité, foncez écouter la version longue. Allez, zoubi ! Comme on a un peu timé, je te propose de passer directement à la dernière étape parce que ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus, qui est la question pour Marty. Je réfléchis beaucoup à la manière dont chacun va être amené à participer à la transition écologique à son niveau, que ce soit personnel comme professionnel, avec Qu'est-ce-tu ? Je me concentre vraiment sur la partie professionnelle parce que l'aspect personnel, c'est un engagement que chacun a dans sa sphère perso, donc ça me concerne pas. Et c'est une question qui m'anime pour plusieurs raisons. L'une d'elles étant que j'ai eu beaucoup d'espoir et d'optimisme sur la capacité de notre génération à se réapproprier les métiers de nos aînés, pour leur donner un nouveau sens et qui intègre pleinement la notion de respect du vivant et qui soit aussi concerné par son utilité sociale. Du coup, j'apprécie passer du temps à discuter avec des pros un peu tout azimut de la vision qu'ils ont du rôle de leur métier, dans la société, et de la manière dont ils le projettent dans le temps long. Du coup, bon, même si aujourd'hui tu as quitté l'horlogerie, est-ce que tu avais la sensation que les horlogers pourraient avoir un rôle spécifique dans la transition écologique ? Au niveau local ou national ou mondial même, peut-être, je sais pas, mais tu vois.
Donc vraiment dans le sens où est-ce que ce métier-là peut apporter quelque chose pour améliorer...
Soit dans la pratique d'exercer le métier, soit dans l'influence qu'il peut avoir sur la transition générale de la société, tu vois.
Ouais. Alors, de base, je dirais déjà tous ces grands salons horlogers, grands salons du luxe, là, ils pourraient faire des énormes efforts parce que c'est vraiment des salons démesurés juste pour montrer qui est le plus grand, qui a les meilleures idées, qui c'est qui a le plus gros porte-monnaie presque en fait. Typiquement, il y a des salons où je suis allée, il y a des marques qui avaient fait le toit de leur stand. C'était des énormes aquariums avec des poissons dedans. Donc, tu vois l'installation du truc, tout ça pour une exposition d'une semaine. Exactement. C'est ce genre de salon. C'est une des raisons aussi pour lesquelles ça m'a fait quitter l'horlogerie, c'est montrer qui pète le plus haut.
Ouais. Un peu la course à l'innovation aussi.
Donc, oui et non. D'un côté, oui, mais après, il y a quand même ce côté intéressant où c'est challengeant, où les gens vont sortir le plus des nouvelles choses, des nouvelles technologies. Donc ça, c'est vraiment un côté, je trouve, hyper intéressant pour l'évolution. Mais par contre, tu as ce côté où il faut en mettre plein les yeux à tout le monde, où il faut absolument, un aquarium de je sais pas combien de mètres cubes d'eau pour une semaine. C'est pas du tout
donc c'est les pratiques marketing
l'air du temps, ouais, je trouve.
C'est les pratiques marketing du métier qui sont abusives.
Ouais. Après, ils ont, voilà, justement, ils prennent je pense que c'est comme dans tout, les grandes marques, ils prennent des ambassadeurs, ils font des vidéos, des trucs, mais démesurés pour vendre leurs produits, ce qui fait partie du truc. Mais pour moi, ça, c'est pas l'horlogerie. L'horlogerie de base, c'est pas... tu dois pas avoir une superstar qui fait du rallye ou je sais pas quoi pour pouvoir vendre ta montre. Faut juste avoir un produit de qualité et...
Je bossais dans une boîte avant qui avait pour activité principale de proposer une solution marketing holographique. Donc, on créait des mises en scène marketing, produits ou événementiels d'ailleurs, avec des hologrammes. Et je trouve que c'est un peu le comble de ce que tu dis. C'est vraiment ce truc de vouloir utiliser des technologies impressionnantes, spectaculaires, tu vois, pour créer la réputation spectaculaire autour du produit, quoi. C'est pour ça que ça marchait très bien avec le luxe. C'est ce côté « waouh », tu vois. C'est bluffant, c'est d'une... C'est spectaculaire, wow. Exactement. L'effet ouais, wow. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est très propre au monde du luxe et que ce luxe-là cherche à cultiver toujours, comme si c'était un moteur aussi d'existence pour eux, quoi.
Ouais, exactement.
Mais en effet, je pense qu'il y a plein d'autres méthodes qui pourraient être mises en place pour avoir le même effet wow, qui garde cet effet spectaculaire, mais sans aller chercher quatre requins au milieu de la mer du Bering pour les mettre dans un aquarium à Dubaï.
Ouais, je trouve, si t'as déjà un bon produit, c'est déjà un effet wow.
Ouais. Oui, c'est clair.
Mais ouais. Après, il y a aussi le côté non écologique des grandes productions où ils font maintenant des salles blanches, où il faut mettre des chaussons, des machins. Chaque fois que tu ressors, tu jettes tout. Du niveau outillage, les grandes entreprises ne travaillent plus du tout à l'ancienne où tu utilises plusieurs fois les mêmes petits outils. C'est genre, l'outil ne va plus trop, on le change. Alors que, ben, par exemple, où je travaillais, c'était vraiment à l'ancienne, vu que chacun avait son outillage, on réparait. Ou tu retouches ton outil, tu le réajustes, tu le réadaptes. Par exemple, un petit coton-tige qu'on utilisait, des espèces de coton-tige spécifiques à l'horlogerie, bah, tu vas l'utiliser plusieurs fois. Bah, dans l'industrie, ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas prendre, entre guillemets, ce risque de perdre du temps. Alors que ça coûte moins cher. En fait, c'est juste que ça coûte moins cher de le jeter et d'en prendre un nouveau.
Oui, il y a ça, en effet. Mais il y a aussi le truc de... Bon, alors, c'est peut-être plus vrai dans l'univers de la santé. Mais souvent, quand tu as des labels ou des normes, peut-être, qui permettent d'obtenir la certification appellation protégée ou la certification authentique d'un produit, d'avoir à toujours travailler avec un outil spécifique et que s'il casse, il va plus répondre à la norme.
T'as
pas ça.
C'est des normes internes. C'est clairement à cause des normes internes. C'est la même chose, mais ils ont souvent des normes internes. Genre, pour visser cette vis, il faut absolument ce tournevis avec le tournevis rose qui sert à tant de puissance et c'est tout. Et t'as pas le droit d'utiliser un autre outil que ça. Et du coup, bah, s'il casse, bah, hop, on le change. À la place de juste qu'il casse. En général, c'est le bout qui s'ébrèche, ça se reprend. Moi, j'ai toujours appris à... Bah, genre, j'ai le même jeu de tournevis depuis toujours. Tu reprends, tu retouches, t'as des limes. Voilà. Et à l'ancienne, il faisait comme ça. Et
ça coûte plus cher
le métier de base
de limer ton tournevis cassé pour le fait de le rendre de nouveau fonctionnel que de le remplacer.
Ben en fait en production ils vont changer juste l'embout et si tu veux limer ça va créer des copeaux donc ils vont pas pouvoir faire ça au même établi parce qu'ils ont c'est tout un système en fait ils vont devoir prendre cet outil l'emmener à quelqu'un d'autre parce que souvent en plus les horlogers de production ils sont pas forcément le droit en guillemets de perdre du temps là-dessus donc ça devrait être quelqu'un d'autre qui va refaire et ça bah clairement tu vas transférer un truc pour que ça soit un autre qui fasse pour que ça revienne alors que paf tu changes en deux secondes ta mèche
et du coup si tu perds du temps tu perds de l'argent. Donc, c'est mon cher.
Voilà. OK. L'industrie.
Ouais. Et ça, du coup,
Le temps, c'est de l'argent.
Tu penses qu'il y a trop de production de montres? Genre, est-ce que c'est un produit un peu comme la fast fashion, tu vois? Est-ce que tu as un équivalent de. Donc, globalement, il y a beaucoup plus de montres que de gens qui ont besoin de montres?
Non, je pense pas, non. Bah, parce que, après, une montre, c'est pas un besoin. C'est un.
Un bijou. Oui.
C'est un bijou, c'est un truc non nécessaire, entre guillemets, à ta vie.
C'est cherry on the cake.
Tu peux très bien vivre sans montre.
Ouais.
Donc,
Quelle est la juste production, du coup?
Voilà.
T'as pas cette sensation d'avoir à réguler la production de montre pour qu'elle soit peut-être aussi un peu plus ouverte à ralentir sa production, tu vois, et du coup permettre d'utiliser, de réparer ses outils. Parce que bon, si t'es timé, si tu dois vraiment produire tant de temps par jour sans être interrompu, c'est aussi parce que derrière, il y a des logiques de quantité produite dans la mise en marché, quoi.
Puis après, c'est pour que le produit soit moins cher. C'est...
Et pour que le produit
Bah,
soit moins
si tu
cher aussi,
produis
ouais.
plus, bah, ta montre, elle sera plus accessible à tout le monde.
Ouais. Et tu penses que ça va ressembler à quoi le métier de horloger dans 20, 30 ans?
C'est difficile à dire. Après, j'espère mon côté un peu idéaliste
J'adore.
et un
Vas-y.
peu Bambi, on va dire. Moi, j'aimerais beaucoup que ça reste comme ça et que ça évolue dans le sens où on revienne aux anciennes méthodes. J'ai l'impression que ça revient un petit peu dans les. Il y a de plus en plus de petits indépendants et de personnes qui refont un peu des montres à l'ancienne, avec des anciennes techniques, avec vraiment à la base de l'horlogerie, juste des beaux produits, de la belle mécanique et pas juste des grandes machines qui sont créées pour que l'horlogerie disparaisse et que ça soit juste des machines qui assemblent, parce que ça, il y a de plus en plus ça, mais par contre, j'ai l'impression que les gens aiment le fait que ça soit quelque chose d'humain, que ça soit un assemblage humain, que ça soit fait vraiment
Moi, j'ai un
par des
peu
gens.
un truc là-dessus aussi où je me disais, parce que ça marche avec beaucoup de gadgets. Enfin, pas de gadgets, c'est pas le bon mot, d'outils d'exception. Tu vois, d'objets d'exception que tu voudrais avoir chez toi. Je trouve qu'on a vécu, il y a eu la période de l'artisanat, donc en fait, globalement, les trucs étaient faits à la main et tout était magnifique, tout était authentique. Et puis après, il y a eu la course à vouloir offrir à tout le monde la possibilité d'avoir ces objets-là, donc de les
Ouais.
industrialiser, du coup d'optimiser les process et d'en faire des objets accessibles. Et là, on est passé à, je dirais pas que c'est un retour à avant, je dirais que
Oui, moi j'ai l'impression, bah, pas un retour, mais
c'est un truc de, en fait, moi je veux pas la
ça
montre que
revient en
tout le monde
fait.
a. Tu vois,
Exactement,
donc
ouais.
une quête de l'exception, de Et je trouve que c'est vraiment le cumul de tout l'individualisme qu'on a aussi développé dans la société ces 50, 60 dernières années, qui vient se matérialiser là-dedans de, bon, ben, c'est super, tout le monde peut avoir cette montre, mais en fait, moi, je veux pas la même montre que tout le monde. Parce que moi, voilà, je veux me détonner, quoi, je veux pas être comme les autres. Et
Ouais.
du coup, pour ça, je vais faire appel à des procédés d'exception. Et souvent, en fait, quand tu veux tomber dans l'exception, tu reviens dans ce qui était les premières méthodes traditionnelles de fabrication, tu vois. Mais
Ouais.
moi, je le lis plutôt comme ça. Je le lis pas forcément vers ce truc de « Ah, c'est génial, on redonne de la valeur à l'artisanat ».
Alors ça va dépendre vraiment de On a, ben, moi, je voyais un peu les clients qu'on avait, qu'on voyait passer. Il y a vraiment les deux, pas comme tu dis, les deux versions. Vraiment la version un peu égocentrique, on va dire ça comme ça, parce que c'est ce qu'il en est. Genre, moi, je suis au-dessus de ça, je veux une pièce unique parce que je veux pas comme tout le monde. Mais autant il y avait des qui sont là, c'est magnifique, c'est réutiliser des anciennes méthodes et utiliser juste. Produire des montres uniques avec des méthodes à l'ancienne, c'est juste beau que cette technique n'ait pas disparu en fait.
Mais heureusement qu'ils sont là,
Qu'il y
d'ailleurs, ces
a.
gens-là. Heureusement qu'ils sont là, parce que
Ouais.
ça, c'est des gens qui, du coup, s'intéressent à la méthode artisanale traditionnelle, plus qu'au fait d'avoir la montre. C'est plutôt le...
Ouais,
Tu vois, genre,
exactement.
ils s'en foutent qu'il y ait plein de gens qui aient la même montre qu'eux. Ils vont juste se dire, waouh, cette montre que j'ai et que tout le monde a, c'est un bijou technologique.
Exactement. Exactement.
Ouais. Et ça, tu penses
Et ça fait
que
plaisir.
ça va venir impacter le métier d'horloger dans les 20 prochaines années?
Sais pas trop. Honnêtement, j'espère d'un côté pour que le métier d'horloger soit vraiment. Bah, qu'il existe toujours, ça va jamais disparaître. Il y aura toujours le côté industriel et le côté. Artisanal, et c'est aussi ça qui fait, c'est un équilibre en fait, donc il y a besoin des deux, clairement. Mais j'espère que le côté artisanal reprenne un peu plus de valeur et plus de place à comparer de l'industrie. Parce que l'industrie, ça va aller de plus en plus où il y a des machines qui vont t'aider à mesurer les choses, où tu dois vraiment presque plus réfléchir à la fin pour monter ton mouvement.
Oui, tu deviens un
Donc,
programmateur d'algorithmes plus que
ouais. tu viens mettre les trois mêmes roues, tu viens mettre ton mouvement. Ah ben en fait ça va pas, je dois changer ça, mais t'as même pas réfléchi, c'est même pas ton cerveau qui a dit ça va pas, c'est la machine qui te dit que ça va pas.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est
Et tu deviens un robot toi aussi, quoi.
ouais,
Ok.
et j'espère que ça y est de moins en moins, mais bon.
Bon, écoute, il est 10 h en France. Je vais pas te mobiliser trop longtemps. Et si une dernière petite question avant que tu nous
Ouais.
quittes, pourquoi tu recommanderais ton métier?
Alors déjà, c'est un beau métier, vraiment. Pour les personnes qui aiment vraiment le côté technique, le côté recherche, challengeant. C'est assez challengeant quand tu peux faire ça. Après, il faut pas faire ce métier pas pour les mauvaises raisons, pas comme tout métier. Faut pas faire ça en se disant, voilà, j'ai des horaires cool, je vais être bien payé. Et puis voilà, c'est vraiment un métier, je trouve, pour y trouver ton compte, faut aimer le côté technique, faut être passionné. Et avec ça, tu pourras vraiment bah, trouver ton compte dans ce métier.
Trop bien. Eh bien, écoute, sur ces bons conseils, je te
Bah, c'était
remercie.
très clair,
Mais bien
j'espère.
sûr. Je te remercie beaucoup pour cette immersion complète dans l'univers du temps.
Merci à toi.
C'était super, très intéressant. Et puis, moi, j'ai hâte de voir aussi comment est-ce que tu vas pouvoir réussir à conserver cette petite pratique technique qui te passionne tant dans une nouvelle vie. Et je suis sûre que tu arriveras à le faire à un certain moment.
J'espère en tout cas. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment un plaisir de partager ces quelques instants avec toi.
C'est un grand merci, Elodie. Salut.
Bye
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer, et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Kestuf, kestuf.podcast. Allez, zoubi!